bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Yann Lacadou.
Bonjour.
Marina Rollman.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ah, il est là.
Albert Algou.
Bonjour.
Alors, Tanguy Passureau. Et nos invités, Jeannery et Elodie Bouchet.
Bravo.
Ça s'appelle Pupille, c'est un film bouleversant, c'est un film intelligent, c'est un film beau, c'est un film qui fait du bien, c'est un bon film déjà.
Bravo
Jeanne.
Bravo.
Avec Sandrine Kiberlin, avec Gilles Lelouch, avec Olivia Cotte, Clotilde Mollet, Miu Miu, vous avez évidemment Elodie Bouchez un rôle important. J'ai envie de dire, vous êtes la parenthèse magique et enchantée de ce film.
Oui, j'ai cette chance.
Vous n'avez pas le premier plan, hein, c'est Miu Miu qui a, je crois, la première
c'est
image.
Elle a le premier plan.
C'est vrai
sur ses mains qui s'essuient de craque sur son pantalon, mais la première voix qu'on entend, c'est la voix de Miu Miu, bien sûr.
Exactement. On va parler de ce film que nous avons aimé, qui est vraiment bouleversant et qui fait du bien par les temps qui courent. Mais d'abord, des questions concernant nos invités, savoir si vous avez un tout petit peu, ou pas du tout, bossé cette émission les uns et les autres. Mesdemoiselles, ne dites rien. Ces questions vous concernent, vous ne ferez que infirmer ou confirmer. Sur une île déserte, Elodie Bouchez, on mènerait des livres, des lunettes de soleil et une personne. Mais qui ?
Un amoureux ?
Non.
Un enfant ?
Non.
Une copine ?
Non. Une quoi ?
Une amie.
Le pape François ?
Quelqu'un pour la distraire ? Un musicien ?
Non.
Un ours ?
Quelqu'un qui l'admire ? Une idole ?
Non.
Une mouette ?
Non.
Un chien, un animal,
Non, c'est une personne.
C'est une personne connue.
Un
ostéopathe.
Alors pas loin.
Un médecin.
Un prof de yoga.
Exactement.
Un prof de yoga.
Retraite ultime.
Si je vais sur une île déserte, j'y vais avec mon prof de yoga.
Ah,
pas
loin.
Votre amoureux, pas la famille. Non,
vous avez raison.
Quels sont vos rapports avec le yoga? Pas avec le prof, avec le yoga.
Non, mais en plus, je n'en fais pas de yoga.
C'était gratuit cette vanne. Elle est là, elle est récente.
J'imagine que j'aurais envie de quelqu'un avec qui travailler le corps.
Et peut-être se calmer, pas paniquer, d'être seul sur une île déserte,
aussi,
à ne rien faire.
Oui.
C'est ça. Vous aimez plutôt être seul ou vous aimez la solitude ou vous êtes
Je sais pas. Je crois que j'aime la solitude, mais en même temps j'aime le collectif aussi. J'aime les deux. 55.
Parce qu'il y a des personnes à qui ça fait peur d'être seule aussi.
Oui, mais j'ai l'impression que j'ai été souvent beaucoup seule. Je suis fille unique. Parfois, je m'aperçois que je suis seule avec moi-même. Mais ça va.
Où on entend Jeanne Herry sur la chanson Macumba de Julien Clerc. Mais qu'entend-on d'elle ?
Un rire, des pas de danse.
Sur Macumba. Je sais pas si on peut la caler vite fait, l'intro de Macumba, juste pour le plaisir, mais qu'est-ce que l'on entend ?
Un soupir.
Ah, je l'ai, c'est incroyable, si c'est moi qui l'ai. C'est encore plus fort. Attendez, bouge pas, je vais
rien
trouver.
Compris à ta
ouais,
question.
Ouais, voilà, tiens.
Tu le sais, toi, Jean ?
Macumba, Macumba.
Ah, mais elle joue d'un instrument, peut-être ?
Non.
Trop
ouais, ouais, mais ils ont pas entendu. En fait, j'ai envoyé la réponse, vous l'avez pas entendu.
Mais oui.
Ah bon ? Au début, au tout début.
Non, écoute. C'est son papa qui chante. Macumba est connue.
Du trombone.
Non, elle est dans la chanson, mais que fait-elle ?
Elle prend le son. Elle est...
Non.
Le triangle.
Non. Elle est en régie. Elle est plus.
Non.
Elle est à côté de lui. Elle lui tient la main. Elle...
Non, enfin,
on l'entend.
Non, on l'entend. On l'entend.
Elle
c'est brille, elle.
M'entends-moi.
On l'entend. C'est elle. Mais
Jeanne.
Mais elle n'était pas née au moment de la chanson.
Ah.
Je peux pas être plus clair.
Elle n'était pas née.
Les battements de son cœur.
Exactement.
Ah.
Exactement.
Alors on écoute.
C'est l'échographie en fait.
Ah, c'est.
Oh.
Pas mal, ouais.
Et en fait, le tempo de la chanson, ce sont les battements de votre cœur.
C'est une petite tachycardie, là, quand même, non?
Normal, j'ai l'impression. Ça va? Bébé, quoi.
Non, mais c'est fort, ça rejoint pupille, en plus, c'est merveilleux.
C'est vrai.
C'est merveilleux, cette histoire, d'avoir le battement de son cœur qui est donné le rythme d'une chanson de Julien Clerc. J'adore l'idée. Pourquoi, 5 ans déjà, Élodie Bouchet a-t-elle refusé de monter sur scène pour un spectacle de vacances sur une chorégraphie de la chanson Les Petits Pains au Chocolat?
La chorégraphie était pas belle. Bien payée.
Non.
Parce qu'elle aime pas le pain au chocolat.
Non.
Il y a un prof de yoga dans la salle.
Timidité, une timidité.
Oui. Maladie,
je pense. Peur d'être sur scène.
Oui, mais pourquoi?
Parce que les parents étaient là.
Non. Parce que le costume était grotesque.
Elle avait peur d'oublier.
Mais quel costume?
Elle était en pain au chocolat.
Non.
Le déguisement.
Elle était déguisée en pain au chocolat.
Non.
En boulangère.
Je vais accepter l'idée du costume. Parce que d'accord, Élodie. Ouais, le costume était totalement grotesque, voire grossier. C'est un truc de dingue.
À mon goût.
Est-ce que c'est vrai? On vous demandait d'être nue?
Oui, c'est vrai. Je ne me souvenais plus du tout de cette histoire jusqu'à il y a un instant. Mais c'est vrai que tous les petits enfants, on n'était pas moi, du coup, tout nus comme ça. Au Club Med. C'était le Club Med, c'était les années 70.
Mais c'est très étrange.
On a retrouvé le mec, ouais, c'est ça. Parce que c'est quand
même. Il est en liberté,
les enfants. Les enfants, c'est ça. Émile Louis.
Le géo fournirait.
Même pas en slip. Même pas en même temps.
Ouais, c'est violent. C'est violent. Et vous avez eu, pardon, la présence d'esprit. Parce qu'à 5 ans, on se rend pas compte de.
Ah oui, mais je me souviens très bien que je n'en avais pas du tout envie. C'était hors de question pour moi.
Moi, je trouve ça extrêmement violent.
Enfin, vous en avez parlé à votre agent qui vous a dit, mais après, tu vas être cantonné, toujours à la même chose.
Rôle d'enfant nu, tout le temps.
Avant de prendre des cours de théâtre, à quoi se destinait Jeanne Herry?
Au trafic de drogue.
Oui, enfin, ça, c'est aujourd'hui.
Non, c'est bon, c'est assouvi. Hein,
quelque chose de carré, de sérieux. Le droit, l'enseignement.
Ouais, le droit, non, c'est ça. Avocate.
Avocate.
Qu'est-ce qui vous plaisait, à part la robe?
Je sais pas, l'endroit de la parole, j'imagine. Je sais pas, l'investissement, l'éloquence, le fait de défendre des gens, j'étais assez sensible.
Mais c'est vrai que l'éloquence est un joli point commun entre les comédiens et l'avocate, ouais.
Oui, la prise de parole en tout cas, c'est sûr. Et résoudre, dénouer, porter par la parole.
Il y a des avocats maintenant qui se retrouvent sur scène à faire des plaidoiries et en faire une pièce de théâtre.
Eh ben, j'ai pas vu.
Non, je crois que c'est que en janvier. C'est pas maintenant.
C'est en janvier.
Mais c'est vrai que la dimension théâtrale d'une cour de justice, moi, j'y suis pas beaucoup allée. J'y suis allée une ou deux fois comme ça pour regarder. Elle est flagrante. Elle est même parfois un tout petit peu ridicule. Enfin, je veux dire, les effets de manche dont on parle, ils existent vraiment. Cette espèce de façon de parler en projetant la voix. Ah, mais moi, j'adore. Mais c'est.
Monsieur le juge, vous dites que Daniel Morin est un monstre. Moi, je dis qu'il aime les animaux.
Bravo, Nagui. Mais bravo.
Je pourrais défendre.
Mais je te prends en tout cas.
Ah, c'est confondant, hein, moi aussi, je vous prends aussi.
Ouais, c'est ça, ouais, ok, foutez-vous de moi. Quel sport pratique Élodie Bouchez?
Karaté.
Bah, pas le yoga,
ouais, exactement.
Du coup.
Enfin, non, pas karaté, pas vraiment. Ouais, kung-fu.
Ah, mais non, pas du tout. J'ai fait du judo au Club Med quand j'étais petite, mais.
Au fameux Club Med. Du judo nu, mais déshabille-toi pour le judo quand même.
Mais si, je t'assure, c'est une vraie prise.
Il
n'y
a pas de ceinture, t'es nouvelle.
T'es nouvelle, il n'y a pas de ceinture. Oh, ils sont encore ouverts ton kimono. C'était dans quelle région ce Club Med?
On devait faire un truc sur la protection de l'enfance. On a fait une émission entière sur les chatouilles, en fait, à nouveau.
Je veux pas emmener les enfants. Quelle horreur. Dans l'Express, en 2010, vous avez dit, je pratique le kung-fu, c'est très bon pour le mental et le physique.
Alors, soit j'ai menti pour faire peur.
Ah, c'est mal.
Ou soit la personne n'a pas bien compris
que vous n'avez...
Parce que j'ai fait de la danse.
Ah oui, rien à voir avec le sport de combat alors.
Non.
Et danse plutôt jazz, moderne, classique, africaine,
contemporaine.
D'accord. Dans quelle série policière Jeanne Herry a-t-elle tourné?
Julesco.
Navarro.
Moulin.
Ouais, mais alors, comme c'est Elodie qui trouve les réponses, ça ne compte pas des points, parce qu'ils ont
tu n'as pas le droit.
Ils ont des cadeaux du comité d'entreprise à la fin en fonction des points qu'ils ont.
Il faut voir ce que c'est.
Dans Maigret, vous jouiez quoi? Une avocate?
Je jouais Félicie dans un épisode qui s'appelait La maison de Félicie. Autant dire que j'avais le premier rôle. Ça vous calme tous bien. C'était pour l'indiquer qu'au moins une fois, j'ai joué le premier rôle dans un truc. Et c'était avec Bruno Kremer et c'était un souvenir génial. Parce que c'était un grand acteur et que quand je l'ai entendu sa voix, là, ça, je me suis dit, oh, il n'y a plus qu'à l'écouter et à répondre et je serai au bon endroit du jeu.
C'est joli de dire ça. que l'écoute, c'est ce que nous avons eu dans l'émission.
Jean-Paul Rouve.
Jean-Paul Rouve disait que pour jouer, en fait, il faut écouter.
Ben ouais, c'est-à-dire que je crois que c'est la maman d'Emma Thompson qui est actrice aussi et qui a dit, on lui a dit, mais quelle est la définition du jeu ? Elle a dit, écouter et répondre.
Et ce sont les conseils que vous donnez à vos comédiens aussi.
C'est vraiment vrai. Je dis souvent, même si j'ai que des bons acteurs, donc ils le savent, souvent je répète plusieurs fois, voilà, sur le plateau, écoutez-vous bien avant certaines séquences, que des fois on est tellement plein de soi. Puis moi j'écris des séquences où souvent les personnages ont des choses à gérer, plusieurs choses à gérer en même temps, des trucs physiques, psychologiques, etc. Je bourre un peu l'armoire pour qu'il y ait des choses à jouer. Et donc des fois c'est difficile de juste se dire, ok. J'écoute et je réponds, et c'est ça qui va donner le bon rythme, la bonne écoute, et tout roule en fait quand on s'écoute bien.
En tout cas, ce que vous avez appris, vous l'avez bien compris et bien appliqué, parce que c'est une réussite, ce deuxième film. Déjà, on avait adoré le premier, et on en avait parlé, on s'en était fait l'écho dans cette émission. Elle l'adore, film que avec Laurent Lafitte et déjà Sandrine Kiberlin, qui devient votre comédienne régulière.
Absolument, c'est ma régulière.
Elle est présente également aux côtés des autres. Il n'y a pas vraiment de premier ou de deuxième rôle, tous les rôles sont importants, quelle que soit leur durée de présence à l'image et quel que soit leur rôle autour de l'enfance, de la naissance, de l'adoption. Ouais. C'est le thème que vous avez choisi. Comment vous est venue l'idée de l'adoption ?
J'ai une proche amie à moi qui a adopté, qui était sur le parcours de l'adoption depuis quelques années, et elle m'a laissé un coup de fil qui m'a complètement bouleversée, un coup de fil me disant voilà, ça y est, les services m'ont appelé, ils ont un bébé pour moi, et si tout va bien, je vais le rencontrer dans 4 jours, et si tout va bien, dans 10 jours, elle est chez moi. Et elle marchait dans la rue, il y avait une énergie comme ça dans ce coup de fil qui m'a complètement bouleversée tout de suite, et surtout interrogée beaucoup. Je me disais, mais pourquoi elle est dans cet état-là en vrai? Pourquoi elle est à la fois euphorique et complètement paniquée? Pourquoi ça a l'air à la fois joyeux et brutal? Pourquoi ils la préviennent au dernier moment? C'est absurde, mais d'où il vient ce bébé? Mais pourquoi? Et d'un coup, j'ai commencé, voilà, et j'ai appris que c'était un bébé issu de l'accouchement sous X. Et alors là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille interroger cet endroit et essayer de le comprendre, parce qu'il avait l'air extrêmement gorgé d'enjeux, de romanesques, d'endroits où planter des graines de fiction, en fait, partout. Et plus je me suis renseignée, plus c'était vrai.
Et chacune a son histoire, que ce soit cette maman qui va accoucher du petit Théo et qui est dans le déni, c'est-à-dire c'est l'aventure d'un soir, elle ne veut pas garder cet enfant, et donc la formule d'ailleurs de la maman qui accouche et qui laisse son enfant à l'adoption, c'est une formule bien précise. La phrase, on voit le formulaire et on juste à côté de Stéphie Selma, il y a l'adoption.
Protocole, hein, en vue d'accueillir une, je sais plus.
En vue d'accueillir un enfant pour l'adoption. Enfin,
c'est ça.
C'est-à-dire que c'est pas écrit accouchement sous X, il y a pas marqué abandon d'enfant.
Non. D'ailleurs, ils parlent plus d'abandon maintenant parce que c'est trop stigmatisant. Ils disent recueil ou remise.
Ouais, recueil d'un enfant ou naissance d'un enfant en vue de l'adoption.
En vue d'adoption, ouais, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que c'est exactement ça qui m'intéressait, c'est que je me suis dit, dans cet endroit très 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 petit de la vie, comme ça, microscopique, où il y a une femme qui vient dans une maternité et qui vient pour accoucher, mais qui veut pas laisser sa carte vitale. Ce fait-là, ça déclenche un protocole, ça déclenche un collectif qui vient se mettre en branle. Il y a un coup de fil qui en amène un autre, et tout d'un coup, il y a un collectif qui vient encadrer ça. C'est une spécificité française.
Une recueillante, même.
Ça déclenche une assistante sociale.
C'est une assistante sociale qui s'appelle une recueillante.
C'est un mot qui est fort, je trouve, et assez beau, et qui va venir et qui est dépêchée comme ça par les conseils départementaux auprès des mamans qui remettent leur enfant pour
l'accompagner. Elle est formidable. D'ailleurs, la comédienne qui joue le rôle de la recueillante,
Clotilde Mollet.
Elle est formidable.
Une grande actrice de théâtre.
Et c'est un rôle clé, en fait, dans toutes les histoires qui va se passer, parce que elle rassure la maman en disant personne ne vous juge. Elle lui explique qu'elle peut laisser un mot pour cet enfant le jour où, plus grand, il voudra savoir qui était sa maman naturelle.
Enfin, qui était, parce que normalement, c'est justement là où il y a il y a très peu de femmes qui vont laisser un élément identifiant à leur bébé.
Elle peut laisser une lettre ou un objet, en tout cas.
Elle peut. Et puis la recueillante est là pour recueillir des informations non identifiantes, mais qui permettent à l'enfant de se construire avec des bouts de son histoire. Pas forcément identifiant, pas dire c'est Nicole machin, elle habite à tel endroit. Non, mais elle était comme ça, physiquement, des bouts de son histoire. Parce que je crois, si j'ai bien compris, qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui font des recherches sur leurs origines, mais quand on le fait, c'est qu'on est en manque et en mal, et que se construire sur un trou noir, c'est extrêmement douloureux, de ce que j'ai cru comprendre. C'est même presque impossible, en fait.
Et c'est ce que vous montrez dans le film, c'est-à-dire qu'avant même que l'enfant soit dans une tentative de construction, c'est un bébé, et pourtant, il a quand même besoin qu'on lui dise des choses, qu'on lui parle.
Oui, c'est aussi quelque chose que j'ai compris en me documentant et qui m'a beaucoup, qui a achevé de me convaincre de ça, on va dire. J'en étais à peu près convaincue, mais c'était, il y a maintenant une façon de considérer les tout petits avec beaucoup de bienveillance et de considération. Voilà, les bébés sont des personnes et on ne devient pas une personne à partir du moment où on commence à parler. On est une personne en naissant, même Dolto, je pense, disait même avant même la naissance. Et une façon de porter ces bébés qui finalement, de par ces protocoles, puisque la mère qui remet à 2 mois pour revenir sur sa décision, ces 2 mois-là, c'est un temps qui est suspendu, donc qui est très fragilisant pour un bébé. Il est entre 2 paires de bras, on va dire. Et dans ce temps-là, qui va le porter ? Ce sont les services sociaux. Ce sont les services sociaux et en particulier l'assistante ou l'assistant familial dans mon film, c'est Gilles Lellouche.
Qui est une famille d'accueil, en
fait. Oui, c'est un homme.
Mais dans une durée bien, bien réduite.
Très circonscrite, mais où il faut le porter entièrement. Ouais. Avec ses bras, avec sa voix, avec son odeur, avec son câlinage, avec sa solidité et avec la parole. C'est vrai que cette façon de plonger le bébé pendant ces 2 mois, là, dans un bain langagier qui l'encadre, qui l'enveloppe et qui le porte et qui le soutient, ça m'a bouleversée tout de suite. Dans l'idée, comme ça, je me suis dit, tiens, c'est hyper bouleversant ça. Et en plus, ça peut faire des très 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 bonnes séquences
de films. C'est bouleversant, ouais. C'est bouleversant et Gilles Lellouche le joue mais tellement bien. Ah, de toute façon, encore une fois, tous les comédiens sont formidables et les personnages auxquels vous vous attachez, de tous les points de vue, on a cette maman qui donne naissance à Théo et qu'il le propose à l'adoption. Il y a les assistantes sociales, aussi bien celles qui vont recueillir cet enfant, celles qui vont, comme Sandrine Kiberlin, le proposer à la famille d'accueil.
Recruter la famille d'accueil.
Voilà, recruter la famille d'accueil Gilles Lellouche, que celles comme Laurent Scott qui va...
Olivia Cotte,
qui va chercher à trouver la maman qui va pouvoir l'accueillir. Ce service d'assistante sociale étant dirigé par Miu Miu, qui est à quelques années de sa retraite,
quelques mois à peine,
et qui, moi je veux la rajeunir, et qui veut trouver chaque fois la bonne histoire, la bonne famille d'accueil ou la bonne maman, et une maman d'ailleurs, c'est ce que vous voulez devenir, Élodie, dans le film, c'est d'abord l'histoire d'une... Et ça commence comme ça, c'est-à-dire que vous apprenez que vous allez avoir cet enfant. On se demande d'ailleurs comment vous prenez la nouvelle quand on vous l'annonce. C'est à la fois un mélange de joie et de panique.
Oui, Jeanne disait qu'elle avait recueilli des témoignages où les assistantes sociales ou les...
Oui, là c'est la chef de service.
La chef de service qui est chargée d'annoncer cette nouvelle incroyable, disait à Jeanne qu'en fait, c'est le moment où les gens tombent de l'armoire. Il y a un bug.
La nouvelle est tellement forte que
les gens sont un peu en sidération.
Ah oui, là, on n'a pas 9 mois pour se préparer à la nouvelle, contrairement...
Non, surtout quand ça fait une décennie au moins qu'on attend, parce que le parcours est très long.
Et c'est le paradoxe, c'est qu'elles attendent pendant des années, et puis d'un coup, bonjour.
C'est Siri qui s'est déclenché quand j'ai dit décennie, je ne sais pas, il y a un signe.
Il y a un mot-clé.
Oui, et puis c'est les moments où on ne sait pas vraiment, on ne sait pas ce qu'on est en train d'entendre. Vous savez, les espèces de moments de trous noirs, de bugs, où ce qu'on nous dit est totalement déformé dans son cerveau, en fait.
On a presque peur de bien comprendre.
Voilà.
Ben c'est trop fort, ouais. Il y a un mécanisme de protection, je pense, où elles me disent, nous, qu'on sait, on va là, on attend, ils tombent de l'armoire, donc on attend un petit peu. on sait qu'on va, que de toute façon ils comprennent pas ce qu'on leur dit, on leur donne des rendez-vous, ils disent d'accord, ok, ouais, donc c'est où le rendez-vous, c'est quand le rendez-vous? Oui, bah c'est comme on vient de vous l'indiquer, c'était à tel âge. Ok, d'accord.
Et c'est pour
là, se souvient
un enfant.
Pour... Ouais, c'est... Non, bon, bah, voilà. J'imagine évidemment que c'est pas une constante, tous les gens ne réagissent pas comme ça, mais je pense que c'est assez récurrent. Et encore une fois, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de faire du cinéma. Donc, je me suis dit, mais c'est très bien, ça, comme, comme situation.
Et puis, on va comprendre aussi, la... et on comprend d'ailleurs la vie, la vraie vie de chacun des personnages. La vraie vie de cette, d'abord, femme qui vient en couple. Elle sait qu'elle doit se marier, donc elle va se marier, ou donc ils ont décidé de se marier. Et c'est très bien, parce qu'ils s'aiment, et ils attendent un enfant, ils attendent d'être élus pour une adoption, et l'attente est trop longue. Et on va voir ce qui se passe dans le couple, on va voir ce qui se passe dans la vie de cette femme et la manière dont elle va évoluer
oui,
aussi
oui,
et mûrir.
C'est un chemin qui va durer 8 ans, qui va être cabossé parfois. Il y a de l'adversité, il y a la vie qui passe avec tout ce qui, toutes les surprises de la vie, les bonnes et les moins bonnes. Mais tout ça va la construire en fait. Et elle va garder son désir jusqu'au bout et elle va être prête. À un moment, elle va être prête. Et c'est ça qu'ils vont sentir.
En tout cas, c'est extrêmement émouvant. J'imagine que l'émotion, on a dû la ressentir aussi sur le tournage, parce que les scènes avec, alors il y a le héros, c'est Théo. C'est-à-dire que non, mais il y a voilà, il ouais. y a pas de rôle principal, mais Théo, ce bébé,
le rôle central, ouais.
Pour avoir vu et la chance d'avoir vu plusieurs bébés naître dans ma vie. Là, vous avez pas triché, contrairement à ce qui se passe au cinéma. Il a vraiment quelques heures, le bébé que vous filmez à la naissance.
Ouais, mais il c'est pas un vrai accouchement néanmoins. C'est quand
non,
même
non, non.
bien sûr.
Mais Il n'est pas vieux. Hein, parce que
on a préféré souvent, le traumatiser, lui faire rejouer un accouchement 10 jours plus tard.
Non, mais ce qu'on voit généralement au cinéma quand il y a des naissances, oui. on voit le bébé arriver, il est tout clean, il est tout propre, il est ceci,
il est
cela.
Il est gros surtout parce qu'il a forcément plus de 3 mois.
Ben voilà.
Non, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir travailler avec des tout petits bébés qui ont...
Il a les marques, il a encore les veines sur les paupières, oui. des yeux, tout ça. Enfin, vraiment le truc de la naissance.
Petit chat.
Mais
oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que le film... devait, c'était une dimension très importante pour moi, devait pouvoir se gorger de ça, en fait. De ce que c'est que les tout petits, petits, petits. Et c'est vrai que quand on fait du cinéma avec des bébés, souvent, c'est compliqué, c'est difficile d'avoir accès aux bébés. Et puis, du coup, on peut faire des plans qui sont très courts. On est un peu dans un processus d'évitement au montage. On met des plans très courts, on met un bout de pied, puis après, machin. Là, non, on avait cette chance d'avoir fait en sorte de pouvoir filmer dans la longueur les bébés. Et ce vecteur de sensations qu'est un bébé qui porte des sensations, ouais. mais... incroyablement puissante sur les tous les odeurs, la
yeux.
Peau,
ouais,
les respirations, les hoquets, tous ces trucs qu'on a déjà vus. Et je pense qu'on on oublie à longueur de vie absolument tout le temps. C'est-à-dire que c'est fou, comme nous tous, dès qu'on voit un tout petit, un nourrisson, on dit « Oh la vache, on oublie hein. !» On oublie à quel point c'est...
Ah, est-ce là, que la scène,
parce que c'est vrai.
Est-ce que la scène du bébé, justement, à qui on suit l'électrocardiogramme ouais. et le rythme cardiaque, à qui l'on parle, ouais. avec les modifications du rythme cardiaque ouais. en fonction de ce qu'on lui dit, ça, c'est de la fiction ?
C'est de la fiction dans le sens où je n'ai pas filmé un moment où ça s'est passé. Je l'ai reconstitué par le cinéma. Mais c'est une anecdote qu'on m'a racontée, oui, pour me... Et c'est vrai que ça a été un moment déterminant de ma phase de documentation. Encore une fois, j'ai rencontré en fait des travailleurs sociaux qui se sont racontés, qui m'ont raconté leur travail, leur mission, leurs outils de travail et tout ça. Et je les ai pas vus en direct travailler. C'était des récits de vie que j'avais. Et quand elle m'a dit « Ah, mais moi, quand je vais en maternité parler au bébé pour leur dire « Bon, écoute, voilà ce qui se passe pour toi. » Ta maman ne peut pas s'occuper de toi, mais nous, on est là, etc. » Cette parole forte, vraie... porté solennellement à ce bébé. Il me dit, mais souvent les bébés, c'est un hasard, ils sont checkés, donc ils sont bipés. Et là, ça monte, il y a les battements du cœur qui s'accélèrent.
Jusqu'à 180.
Alors là, il y a un truc qui s'est planté en moi, je me suis dit, oh là, et bien, j'étais à 2 heures de prendre mon train pour repartir à Paris, j'étais à Brest, et je me suis dit, il va falloir que je revienne. Oula, il faut que je revienne, il y a quelque chose là.
Et c'est ce que dit le personnage de Clotilde Mollet dans le film. Évidemment, le bébé ne comprend pas les mots,
oui.
mais il comprend l'émotion, il comprend le ton de la voix.
Il ressent l'importance.
Il comprend la gravité oui. de ce qui est dit.
Le et poids, c'est en fait, qui est mis dans les mots.
Et c'est bouleversant.
Et
c'est une leçon pour tous les parents aussi qui vont voir ce film ou qui seront un jour papa ou maman. C'est que... les enfants comprennent tout et sont des éponges pour tout, et il faut pas croire que l'on parle différemment à un enfant d'un adulte et que l'on peut tout dire et n'importe quoi.
Oui, oui, c'est vrai que même pour, oui, on n'est pas obligé de parler que aux bébés qui ont été remis à l'adoption et qui vivent un moment quand même très compliqué. Je pense qu'on traverse tous avec des bébés, les femmes y compris, enfin, vraiment en particulier quand elles naissent, les baby blues, les machins. C'est dur. Des fois, on se sent pas super bien et ce n'est pas. Oui, ouais. Et les enfants le ressentent probablement, oui, et ce n'est pas les préserver que de ne rien leur dire. Au contraire, je pense qu'il y a quelque chose de très sain et à leur dire, t'as raison, il se passe un truc, je me sens pas super super bien là, mais c'est pas de ta faute, t'inquiète pas, je suis fatiguée, mais il y a pas de problème, ça, j'en sais
personne,
rien.
Et dans votre film, personne ne parle au bébé en faisant des gazou gazou areux blablabla. C'est-à-dire, c'est un discours très.
Je pense que les bébés ont aussi besoin qu'on gazouille avec eux et qu'on fatigue à boubouillé, mais c'était pas la fonction de mes travailleurs sociaux.
C'est un film formidable où on va encore en parler parce qu'il y a tous les autres personnages, on n'a pas encore développé le personnage de Sandrine Kimmerlin également dans le film, en disant simplement qu'elle est du côté aussi de l'assistance sociale, qu'elle a confié, qu'elle a choisi la famille d'accueil et qu'elle va aussi s'inquiéter des enquêtes et du suivi de cet enfant.
C'est voilà. La référente pour le service du placement familial, c'est la référente de Théo.
Et ce qui est fort, c'est que tous ces hommes, toutes ces femmes qui s'occupent de ces enfants en attente d'adoption ont aussi leur histoire, ont aussi leur vie privée, ont aussi leurs émotions, ont aussi leurs histoires d'amour, et que tout ça vient croiser, se chambouler et nourrir ce film. C'est formidable, ça s'appelle Pupille. On vous encourage vraiment à le voir, ça sera mercredi prochain, le 5 décembre. Vous ne sortirez pas indemne du film, mais en bien. Sortirait grandi de ce film. N'est-ce pas, Père Albert? C'est un
mais
bon film.
Bien sûr, Nagui. Alors, ça va avoir du succès tout simplement parce que tant les comédiennes comme Élodie Bouchez, Coco Élodie, que la réalisatrice Jeanne-Marie, Coco Jeanne, toutes confèrent à cette histoire une profonde humanité sans pour autant tomber dans les travers larmoyants, apitoyants de tant de films sociétaux, comme dirait les Lacadeaux. En ce qui me concerne, comment pourrais-je rester indifférent à la thématique de ce film, puisque j'ai fait mienne l'injonction christique, laissez venir à moi les petits enfants. Ce qui fait d'ailleurs que portant la soutane, eh bien, pour les jeunes en recherche que je suis amené à guider vers ma camionnette, chez cuir clouté, je suis à la fois un papa et une maman. Un papa, une maman, un papa. Bref, soyons sérieux. Vous comprendrez donc, Nangui, que j'ai pu être très choqué par les propos que vous avez tenus tout à l'heure à GNB, notre rédac-chef, qui venait de vous donner le titre du film que vous auriez dû regarder hier soir si vous n'aviez pas préféré Pâques de Bénous bio à portée de main, avachi sur le canapé en pot de zèbre de votre home cinéma de 300 mètres carrés, suivre sur écran géant le match PSG-Liverpool, après avoir regardé Atlético Madrid-Monaco.
Mais t'as une caméra de surveillance chez moi.
Oui, bien sûr. Je ressens les choses, moi, comme les bébés. Donc, Nangui, vous avez dit, et là, c'est pas une imitation, c'est un rapport de vos propos. Comment ça, pupille, avec Élodie Bouchez? Déjà hier, tu m'as imposé Lola et ses frères, avec Jean-Paul Mouve, non, Jouve. Jean Rouve, qui joue un opticien, et aujourd'hui, tu me refourgues un film avec une ophtalmo. Mais bon, mon maître, pupille, c'est pas un film avec une ophtalmo, c'est un film sur l'adoption d'un bébé, suite à la suite d'un... À la suite de quoi? Accouche? Oui, c'est ça! À la suite d'un accouchement sous X. Sous X, Y ou Z, je m'en tamponne. Oh. Alors, passe-moi vite les fiches sur lesquelles j'espère que tu as écrit que c'est un film formidable, bouleversant, qui fait du bien par les temps qui courent, dont on ne sort pas indemne, et fait entrer les invités. Voilà, cher Élodie Bouchet, cher Jean-Éric, comment se prépare la bande originale dans les quiproquos, la mauvaise foi et la désinvolture totale.
Merci.
Bonne émission quand même.
Sur France Inter. Élodie Bouchez, pour jouer le rôle de cette maman qui n'a pas d'enfant et qui attend et qui est émue d'avoir l'annonce de l'adoption, est-ce que vous êtes allée chercher dans l'émotion de la maman que vous êtes avec vos enfants?
Non, en fait, je crois pas consciemment en tout cas, mais non, pour moi, je suis dans une autre situation émotionnelle, en fait. Je suis dans ce film, mon personnage, il est dans un désir fou d'enfant. Donc, non, j'ai plus eu absolument envie de tenir ce rôle parce que j'ai su que j'allais pouvoir l'attraper, que j'allais pouvoir le pétrir, cette matière humaine.
Et puis aller dans le doute, cette future maman, elle est presque en train de dire, je comprendrais que vous ne me fassiez pas confiance, mais je vous assure, faites-moi confiance. Enfin, c'est-à-dire, elle est pas en forme. Elle est pas en forme, et puis surtout, elle se retrouve, je veux pas divulgâcher, mais elle se retrouve dans une situation très très actuelle, celle de demander une adoption monoparentale.
C'est récent.
Ce qui est récent comme autorisation, ce qui est d'ailleurs annoncé, ce qui fait pas plaisir à tout le monde autour de la table. On voit bien déjà qu'à la manif pour tous, il y en avait certains de l'assistance sociale qui pouvaient.
Non, c'est pas forcément. Non, je pense que c'est parce qu'ils sont habitués à un schéma aussi et que pour le bien de l'enfant.
Oh, il y a des vannes, il y a des regards entre.
Oui, il y en a une, il y a un personnage, mais ce n'est qu'un regard qui est pas folle de joie de savoir que le conseil de famille a ouvert le dossier de Théo au dossier des familles monoparentales.
C'est alors qu'il y a le regard d'un garçon là qui est bien content d'entendre qu'on va enfin ouvrir
en tout cas oui que c'est possible.
Vous avez joué avec ça, il y a quand même des sous-entendus très actuels.
Oui, bien sûr, il y a plusieurs mouvements de pensée, c'est bien normal à l'intérieur, au cœur même des services.
Et donc d'avoir été peut-être trop ballotté de dossier en dossier. Après le mariage, votre mari est parti, vous retrouvez donc seul, divorcé. Tout ça fait que le dossier s'écroule et qu'on repart à zéro et qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour tant d'injustices ?
Ah oui, mais c'est ça, ce chemin, ce parcours dont on parle.
Et pourtant, elle lâche rien.
Non, parce qu'elle résiste à tout ça, mais pour autant, elle est sincère, c'est-à-dire que quand elle va pas bien, elle va pas bien, et c'est ça aussi qu'il ressent en face. Et c'est pour ça que le personnage d'Olivia Cotte qui l'accompagne tout au long de ces années, pense qu'elle est prête parce qu'elle a déminé ses champs.
Et on voit comment elle devient avocate, elle aussi. C'est-à-dire que elle va défendre sa cause auprès des autres assistants sociaux.
Elle est sûre de. Elle est à peu près sûre, complètement sûre même
La personne est prête.
Voilà, de cette personne-là.
C'est vrai qu'il y avait dans cette dimension du personnage d'Alice déjà expliqué ce que c'était de mettre du concret, remettre de la chair dans cette expression qui s'est un peu vidée de sens, parcours du combattant. Qu'est-ce que c'est en fait ? Pourquoi on appelle ça le parcours du combattant ? Parce que c'est de la longueur, c'est du temps passé, c'est une alternance d'abattement et d'espoir. Et il y avait quelque chose dans le personnage d'Alice qui était contre l'adversité, contre soi, contre les mauvais.
Enfin,
la vie, c'est vrai, les divorces. Finalement, le personnage d'Alice, il perd beaucoup de choses, comme nous tous en cours de route. Il perd sa mère et elle divorce, on est abîmé, mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de l'éloge du rebond. Elle rebondit, elle s'enrichit, elle digère, et puis elle reprend sa course. Et puis,
ça sera sa force, finalement, toutes ces
attaques.
Et
c'est sa grande force, et c'est vrai qu'elle est, vous disiez, elle est fragile. C'est vrai qu'elle est fragile, mais c'est un petit soldat. Mais c'est un petit soldat discret, en fait. Sa volonté, elle est chevillée au corps, mais c'est pas un bulldozer, c'est pas quelqu'un qui va piétiner les autres pour arriver. C'est quelqu'un qui se forge quelque chose de l'intérieur et qui avance. Il y a quand même une volonté et un entretien du désir. Voilà, je pense qu'elle est à la fois hyper plus musclée après 8 ans de parcours et en même temps le désir, la fraîcheur du désir, il est intact.
Puis c'est un personnage qui est dans la parole parce que
elle a compris qu'il fallait ça.
Elle a un métier aussi qui est ça. Elle fait de l'audio description au théâtre pour des spectateurs qui sont malvoyants.
Oui, pas pour les sourds, contrairement à ce que
pense. C'est ça. et je trouve que c'est très très beau de lui avoir donné cette profession-là parce que c'est pas juste une profession juste pour dire elle fait quelque chose dans la vie donc elle a une situation financière. Non, ça raconte aussi beaucoup dans votre entreprise de communication
sûr.
Aussi.
Dans sa générosité,
c'est-à-dire que je me disais ça va être notre encadré. Moi, j'ai été encadrée beaucoup dans ma vie. J'ai été à l'école, j'ai été à l'hôpital. J'ai été faire un petit tour du côté des encadrants, là, pour la première fois de ma vie. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu et ce que j'ai découvert. Mais j'avais à cœur de me dire, voilà, Élodie, ça va être le personnage de l'encadrée. Mais c'est bien qu'elle encadre aussi, elle, par son travail, d'autres trucs. Et en fait, c'est l'organisation de notre société, qui est très singulière, hein, la société française, pour encadrer ça, l'adoption, l'accouchement sous X, c'est vraiment une singularité française. Notre société s'organise et va permettre que deux manques vont venir se combler l'un l'autre. Le manque de bébés d'un côté, le manque de parents de l'autre. Il y a une équation qui va venir se résoudre logiquement quelque part. Et elle aussi, Alice, quelque part, avec les mots, elle va venir combler un manque. Très simple et très concret des malvoyants qui aiment bien voir des films et des spectacles.
Le 5 décembre au cinéma Pupille, le très bon film que vous devez voir.
C'est absolument obligatoire.
Ouais, c'est un ordre. On a vos noms et prénoms, c'est une obligation. Voici Marina Rogan.
Alors, qui arrive? Hanouka, Noël, Nouvel An, les diverses fêtes de fin d'année de bureau, spectacle de claquettes de vos enfants. Bref, on est sur le seuil de décembre et donc sur le point d'entamer un mois infernal. On va tous devoir manger gras avec des gens dont le reste du temps, on se tamponne. Et il y a des faux pas à éviter, c'est vrai. C'est pourquoi voici mon petit guide d'étiquette à l'usage des fêtes de fin d'année. Point numéro 1, le physique. Personne n'a maigri, personne n'a grossi.
D'accord.
C'est-à-dire, vous allez revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il y en a qui auront changé. On n'en parle pas, ok? C'est une bonne idée de ne pas le faire remarquer, parce que ça ne peut être que gênant. Soit tu vas sauter sur une cousine qui a pris 8 kilos et spontanément lui mettre la main sur le ventre en disant un truc genre « Oh bah je savais pas !» et voir dans ses yeux que bah manifestement elle non plus, elle ne savait pas en fait. Tu savais pas quoi? Bah que tu mettais de la mohair, Jessica, ça te va très bien, je suis ravie pour toi. Soit au contraire, tu vas faire remarquer à ton oncle qu'il a une mine formidable, et t'as, ah, franchement Samuel, c'est dingue, t'as fait quoi? Paléo, sans gluten, raw? Et il te dit genre, bah non, j'ai un lymphome. Et bah, ça te va très bien, écoute, là aussi. Donc, à moins que quelqu'un t'annonce un truc de lui-même, tu ne dis rien. Même si ta tante, elle a 59 ans, elle vient de mettre des bagues, tu ne dis rien.
Précaution.
Voilà, les fêtes de fin d'année, on a juste le droit de parler du physique des gens qui ne sont pas là. Si t'es au bureau, tu peux parler du livreur FedEx qui est tellement beau à chaque fois qu'il passe, toute la réception ovule, ça t'as le droit de dire. Si t'es en famille, tu peux parler du nouveau mec de ta cousine, il est tellement moche, la première fois qu'on te l'a présenté, t'as cru qu'il était de dos. Mais on reste pour toi avec les gens qui sont présents. Point numéro 2, le travail. Idem, si on ne t'en parle pas spontanément, c'est pas la peine de s'enquérir de comment évoluent les gens. Parce que généralement, les bonnes nouvelles, j'ai monté ma boîte, j'ai été promu, il y a une nouvelle machine Selecta à la cafette, etc. Les gens te le disent spontanément. Si tu dois te demander, c'est que ça va pas être une avalanche de trucs chouettes. Tu vois. Il y a plusieurs options en termes de carrière dans une famille. Tu peux tomber sur les artistes incompris. Ton cousin, ça fait 15 ans qu'il est sur un projet d'album. C'est du death metal érotique pour enfants. Et il le sait que ça cartonnerait. Seulement, voilà, le système lui donne pas sa chance. Tu vois, il te sort des trucs genre, ah bah les maisons de disques, de toute façon c'est impossible. Hein, c'est tout tenu par les Illuminati. T'as envie de dire, ouais, mais franchement, s'ils ont produit Beyoncé et Brad Pitt, ils ont pas tout tort non plus les Illuminati. Tu vois, on peut pas leur enlever un certain flair, quoi. Sinon, tu peux croiser qui à une fête de famille? Des petits patrons qui peinent et qui te font de la peine. C'est genre le meilleur ami de ton papa qui est là. Ouais, c'était compliqué cette année. Il y a une grossesse, deux démissions. En plus, elles se sont toutes les deux mises en arrêt maladie et tout. Tu vois, moi derrière, je dois assurer les commandes, reformer du nouveau personnel. Enfin, personne ne m'aide. Et toi, t'es là, t'écoutes, tu mesures le niveau de responsabilité, tu vois qu'il est creusé, il a vieilli, t'as de l'empathie. Et puis tout à coup, ça part en couille, il te dit un truc genre, en plus, une des deux qui est partie, elle est lesbienne. Puis toi, t'es là, quoi? Elle s'est mise en arrêt maladie parce qu'elle était lesbienne. Il dit, non, mais on sait que ces gens, de toute façon, bon, on peut plus rien dire. Puis il se met à tirer sur sa vapoteuse qui fait la taille d'un petit réacteur nucléaire, comme ça, l'air absent. Très bien, tu laisses tomber. Mais alors, la question, c'est de quoi on peut parler? Alors, on peut parler des bébés animaux. Globalement.
Ouais,
avec des smartphones, aujourd'hui, on est tous à un clic d'un chiot qui découvre la neige ou d'un girafon qui éternue. On vit une très belle époque, profitons-en. Voilà. On peut parler du prix du carburant. Voilà. Si on peut arriver assez vite à, de toute façon, ils nous emmerdent, c'est la faute des patrons, et si McDo arrêtait avec les pailles en plastique, on n'en serait pas là, etc. C'est vague, c'est lointain, c'est pas nous, c'est très bien. Et enfin, la Coupe du Monde, les amis. Il n'y a pas de complexe, c'était il y a 6 mois, mais si vous n'avez pas vu ces gens depuis, allez-y. Vous êtes les champions, ça vaut au moins une année de fête pacifiée. Voilà,
profitez-en. Bravo.
La bande originale. Tout à l'heure, nous recevrons Fanny Cohen-Erlem, qui est psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste. Et nous parlerons de l'adoption avec elle, puisqu'elle a signé ce livre, L'adoption, comment répondre aux questions des enfants. Mais d'abord, la bande originale de votre vie, de vos vies, dans les années 90, début des années 90. Jeanne, vous écoutiez.
Un petit séjour d'un mois. Paris.
Cette musique de Charles Trenet correspond à quoi ?
Mon enfance, j'ai adoré Charles Trenet, c'était un de mes chanteurs préférés. Je l'avais vu en concert, un concert à deux pianos. Et il se trouve que dans les années, en 1989-90, j'ai tourné un film, mon premier film, qui était Milou en mai, avec, réalisé par Louis Malle. Il y avait ma maman dedans.
Miu Miu.
Miu Miu. Et je me souviens très bien que... C'est elle qui m'a emmenée sur le tournage, mon premier jour de tournage. Je pense que j'avais fait un peu la maligne, genre « ouais, je vais tourner, j'en ai rien à foutre ». Et que là, j'ai commencé à être traqueuse et qu'elle m'a mis à l'arrière de la voiture. Elle m'a dit « je te regardais dans le rétroviseur et je voyais, je ne te voyais de moins en moins. Je voyais que tu blessais, que tu tombais là ». Et là, elle m'a dit, et là, elle a mis Charles Trenet. Elle m'a dit, du coup, je me suis dit, je vais te mettre Charles Trenet. Et elle a mis Charles Trenet dans la voiture parce que c'était une voix et des chansons que j'adore.
Et c'est donner la réplique à sa mère, comme ça, rétrospectivement.
C'était nul.
Pourquoi
c'était de la merde. Non, c'est pas vrai, c'était super. Non, bien sûr.
Et aujourd'hui, il a dirigé.
Ouais, c'est ça, c'est que tout d'un coup.
Non, c'était super. Et puis, je me souviens en plus sur Milou en mai, comme moi, je. Bon, voilà, je pense que je suis pas une actrice hors pair, mais j'avais quelque chose de naturel, petite fille, ouais. Qui était très naturelle. Et du coup, ça roulait, quoi. Et Louis Malle, qui était un homme que je regrette de pas avoir connu adulte, parce que je pense que c'était un homme très, très intéressant. En tout cas, ses films le sont. Mais à l'époque, il venait et il me dirigeait à la voix. Il faisait, non, tu sais, tu vas la voir, puis tu fais, nan, comme ça. Et ma mère me
dit. Il faisait la musique de.
Il faisait la musique d'une petite fille de pub, en fait, hein. Okay. Et ma mère passait toujours derrière. En me disant, tu l'écoutes pas, tu fais à ta façon. Tu fais comme toi tu fais, c'est très bien.
À ce moment-là, vous écoutiez Élodie Bouchèze.
C'est le talent de Charles Trenet qu'on connaît pas bien, ça.
Évidemment, Nirvana.
Bah oui,
c'est une génération.
Ça se passe des commentaires.
C'est l'année du bac pour vous, Élodie. Vous tournez le cahier volé.
Oui.
De Christine Lipinska. Et vous revenez à l'école, je crois, quand même.
Oui, je reviens passer mon bac, en fait.
Parce que vous vous dites que finalement, vous n'allez pas arrêter pour devenir comédienne. C'est quoi le.
Non, c'est parce c'est que, en fait, je voulais en finir assez vite avec le bac. C'était comme avec l'école, quoi, avec le lycée et tout. Mmh. Mais je voulais quand même le décrocher, ce bac.
Ouais.
Donc, j'avais hésité avant de faire ce film. Et puis, j'avais vu tous mes professeurs, dont mon professeur de philo. Et en fait, tous m'avaient dit, mais si, vas-y, c'est une expérience, c'est super. Nous, on sera là, on t'aidera, on t'enverra les cours et tout. Super. Et en fait, je me suis remise à leur confiance. Et puis, j'ai eu mon bac et j'ai fait ce film.
Ouais, bien encadré.
Bien encadré.
C'est ça. Encore. On reprend l'expression de Jeanne tout à l'heure. Jeanne, Eri, vous écoutiez en 99. Écoutez comment d'ailleurs Radiohead, seul dans une chambre d'étudiante ou avec un casque sous la pluie?
Avec un casque, j'ai écouté Radiohead beaucoup. Je suis partie vivre à Londres en fait après le bac et j'étais assez seule là-bas et c'était super. Et j'ai beaucoup écouté de rock anglais et tout ça. Et en fait, après je suis revenue à Paris et c'est un album, cet album-là, je l'ai vraiment écouté. J'ai beaucoup marché dans Paris. On marchait beaucoup, je m'aperçois à cette époque entre copains et tout ça. On rentrait tout le temps à pied, passait des heures à marcher en pied la nuit, et avec cette musique, c'était un film permanent. C'est un très très grand album.
Et vous entrez au conservatoire en 99,
ouais.
Avec comme prof Catherine Yégel,
ouais.
Muriel Mayette-Holtz, Dominique Valadier.
Tout à fait.
Et est-ce que c'est un désir d'être comédienne à ce moment-là, ou déjà de voir comment évoluent les comédiens pour être réalisatrice?
Ben non, pas du tout, je voulais vraiment être comédienne. C'est les seules études que j'ai faites. Voilà, j'ai fait une école en Angleterre, je suis revenue en France, j'en ai fait une petite école, après j'ai passé, c'est vrai, j'ai concours, je suis rentrée au conservatoire et je voulais vraiment être comédienne. Je pense que j'ai appris énormément, c'était des années merveilleuses, les années du conservatoire, mais c'est aussi l'endroit où j'ai découvert effectivement la mise en scène. En sortant, j'ai commencé à écrire aussi. Et en fait, après, j'ai appris, je me suis musclée, j'étais pas si mauvaise que ça, mais bon, j'ai quand même été au chômage comme 95% des comédiens, donc je n'ai pas échappé aux statistiques. Mais comme par ailleurs, j'avais développé...
Il y a l'intermittence aussi, mais autre exception
tout à
culturelle
fait.
De notre pays, et force.
Absolument. Mais je pense que tout ce que j'ai appris là-bas sur le jeu d'acteur me nourrit beaucoup, évidemment, mon travail de réalisatrice et de scénariste aujourd'hui. Et que j'ai... En fait, je pense que je me suis reglissée très naturellement à un endroit que j'avais occupé dans mon enfance, à voir des artistes travailler.
Observer vos parents.
Bah ouais.
Ouais.
dans ces années 99, oui, vous écoutiez Élodie Bouchèze, Prince. C'est C'est impossible d'écouter Prince sans bouger, c'est ça qui est dingue quand même. Non, c'est dingue, c'est dingue. Là, c'est quoi, c'est votre, vous dansiez, vous aimiez Prince, vous allez, la musique, vous la consommez comment? Vous l'écoutez à la maison, vous dansez, vous allez en concert?
Tout. Tout ça.
Elle est présente.
Elle est présente. Et c'est vrai que Prince, je pense que c'est le premier concert que j'ai vu, Sign of the Time, à Bercy, ouais, avec mes parents. Ma mère avait eu des places par son comité d'entreprise. Et je ne connaissais pas très bien. Et j'ai... Voilà, et là...
C'est une claque. Ouais.
C'était une claque. Et je m'en souviens encore très précisément. Et puis voilà.
Et autre claque cette année-là, c'est le César, la meilleure actrice, pour La vie rêvée des anges. Un film générationnel, je crois. Enfin, Jeanne, je pense que c'est marrant, on appartient à peu près à la même génération.
C'est marrant de se dire qu'une jeune fille qui reçoit un César va au concert si ses parents ont des places.
À la même période, tu veux dire?
Ah oui.
Je sais pas.
Si, c'est la même période, tout ça.
Oui, 99. Sans doute. Oui, oui. Ouais. Oui, bah oui. J'aime bien mes parents.
Non, non, mais tu vois, j'aime bien ce côté petite fille, alors que vous pourriez demander une espèce d'émancipation et musicale et culturelle, mais c'est bien.
Ah oui, oui, non, mais...
Très bien.
Oui, on s'est toujours bien mélangé.
Ouais. Revenons à la vie rêvée des anges.
À la vie rêvée des anges, je parlais d'un film générationnel. Je sais pas quel souvenir vous en avez, vous, Jeanne.
Un souvenir suffisamment fort pour me dire quelques années plus tard que ce serait bien que ce soit Élodie qui incarne le personnage d'Alice, ouais, dans mon film.
Vous aviez entre l'image autres, au moment d'écrire.
Non.
Vous saviez qui vous vouliez, à quel rôle.
Élodie est arrivée un tout petit peu plus tard que les autres dans ma tête, mais quand même assez tôt, ouais. Très tôt, j'ai mis son visage et sa voix. Et bien sûr, La vie rêvée des anges et bien sûr, Les roseaux sauvages qui m'avaient beaucoup marquée aussi. Ouais. J'avais le souvenir d'avoir beaucoup voyagé émotionnellement avec cette comédienne. Elle est à gauche, là.
Élodie Bouchèze. On va donc parler avec vous, Fanny Cohen-Herlem. Merci d'être à ce micro. Bonjour.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Vous êtes pédopsychiatre. Vous êtes auteur de l'adoption, la filiale du cœur.
La filiation.
La filiation, pardon, du cœur. Oui, filiale, c'est autre chose.
Ça, c'est le business
plan. C'est l'entreprise, ça.
Oui. Non, c'est une faute de frappe sur ma feuille. L'adoption, comment répondre aux questions des enfants? Il existe justement plusieurs formes d'adoption. Et quand je parle de filiale, c'est qu'il y a aussi tout un marché.
Une filature, tu veux dire?
Non, mais c'est vrai, il y a tout un marché.
On passe son temps à tisser, hein, des relations entre ces enfants qui ont été abandonnés et les futurs parents. Donc c'est effectivement une filature, un tissage de liens.
Combien de familles sont en attente en France?
Alors, en moyenne, hein, moi j'ai les dernières statistiques, ouais, donc qui ont été en fait en 2017, ça date de fin 2016, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a 14 070 demandes d'adoption en cours, enfin de personnes qui sont munies de leur agrément. Et en nombre de pupilles, on en a, si j'ose dire, 2626.
Qui attendent.
Qui attendent, qui sont pupilles, c'est un statut de protection de l'enfance, je rappelle de devenir pupille. Ils sont pas forcément tous adoptables, mais ils sont pupilles. Et des enfants nés sous le secret, il y en a 646, il y en avait 646 fin 2016, c'est-à-dire que vous pouvez mesurer le gap entre le nombre d'agréments, ouais, et le nombre d'enfants nés sous le secret, je précise, parce qu'il y a des enfants plus grands qui sont adoptables, mais qui ne sont pas forcément adoptés.
Et qui sont pupilles aussi.
Et qui sont également pupilles.
Le même statut, ouais.
Voilà, c'est le même statut. C'est un statut de protection de l'enfance.
Il y a une définition, c'est un statut pupille ou c'est une définition?
C'est un statut. C'est un statut qui permet effectivement que les enfants puissent accéder à leurs droits et soient protégés dans toute leur vie courante, comme n'importe quel enfant.
Ça veut dire qu'en matière d'adoption, les parents qui souhaitent adopter préfèrent avoir des petits.
Des nourrissons. Hein.
Alors, les candidats à l'adoption, puisqu'ils ne sont pas encore parents.
Oui, on leur souhaite.
Bien sûr, les candidats à l'adoption, la plupart du temps, souhaitent des enfants, de jeunes enfants, mais pas forcément.
Oui. Ce qu'on voit dans le film, comment le personnage Élodie Bouchèze élargit au fur et à mesure sa demande, parce qu'elle sent que sans quoi elle n'aboutira jamais cette demande.
Oui, bah alors je voulais dire un mot par rapport au film quand même, quelque chose, parce que je l'ai trouvé vraiment fantastique, hein, et superbe. Merci, en même temps très 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 optimiste, ce qui est aussi une qualité évidemment. Et ce que je trouvais, c'est que la façon dont ce que vous montrez dans le film, c'est quelque chose aussi dont on parle, nous, pédopsies ou autres ou psychologues, c'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant est une personne, ouais. Et le bébé est un être de parole, un être de langage, et à qui il faut s'adresser dans toute la vérité de ce qu'on ressent, et c'est pas toujours évident. Et je trouve que c'est très très joliment montré, et du coup, je me dis que ça va faire encore plus d'effet que notre parole. Donc ça, c'est très bien, merci pour ça.
Ouais, c'est une réussite, je le dis et je le redis, c'est une réussite qui compte pour tout le monde, pas uniquement pour ceux qui sont dans une situation d'adoption, et pas uniquement pour ceux qui sont parents, mais
pour Daniel et moi, par exemple,
parler à des enfants et de parler normalement à des enfants, c'est une des leçons du film et qui pour moi vaut aussi bien pour les juges pour enfants que pour ceux qui
les parents,
les professionnels. Les professeurs, les policiers qui peuvent, ou la brigade des enfants mineurs. Enfin, tout ça, c'est la parole de l'enfant. Il faudrait aussi apprendre aussi à les écouter.
C'est les moniteurs en club de vacances.
Aussi. Apprendre à leur parler. Non, alors là, je suis très inquiet. Je parle pas du moniteur d'Élodie
Bouchet.
Alors, revenons à ces enfants. Oui. Il y a différentes modes, différentes adoptions en France.
Oui, alors il y a deux modes d'adoption, qui sont l'adoption plénière qui coupe le lien de filiation juridique entre les parents de naissance et l'enfant, et l'adoption simple qui ne coupe pas le lien juridique, c'est-à-dire qu'il persiste le devoir, je crois, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, de nourriture ou quelque chose comme ça, et qui permet aux enfants effectivement d'hériter aussi de leurs parents. Donc c'est additionnel l'adoption simple.
Alors on le voit très bien dans le film, mais c'est comme beaucoup de choses dans la vie, il y a beaucoup intervenant à différents niveaux. Oui. C'est pas une seule personne à qui on a affaire.
Non, ce sont des services différents. Les enfants qui sont remis en vue d'adoption, donc les femmes accouchent, on dit accouchement sous le secret, plutôt, c'est moins horrible que
c'est
sous
plus élégant,
X.
Ouais.
Oui, accouchent sous le secret, donc elles peuvent livrer des éléments non identifiés à l'assistante sociale, comme on le voit, qui est délégué en général par le Conseil national d'accès aux origines personnelles, pardon pour le sigle, le CNAOP, oui. Et puis, elles ont 2 mois effectivement pour se rétracter, ce qui est quand même important avec tout ce que vous disiez très justement, c'est-à-dire c'est un temps suspendu.
Elle est formidable dans le film, elle est formidable, mais c'est vraiment un rôle clé, cette personne recueillante qui vient parler à la maman, qui ne la juge pas, qui ne la condamne pas.
Qui est là pour l'accompagner quel que soit son choix. En fait.
Alors c'est vraiment fondamental parce qu'il arrive que des femmes viennent, en fait... Il arrive effectivement que des femmes viennent accoucher en demandant un accouchement sous le secret et ne soient pas certaines que rien ne sera dit, et il arrive qu'elles se sauvent en fait. Oui. C'est-à-dire qu'elles accouchent et puis elles se sauvent de la maternité en ne laissant rien. Donc ça montre à quel point ce travail de recueil d'informations et que l'accueil de la femme qui va accoucher est important pour qu'elle se sente vraiment accompagnée, quel que soit son projet.
Moi, ce qui m'a bouleversé, c'est quand elle lui dit « allez lui parler ».
Oui, bien sûr.
Prenez le bébé contre vous, allez lui parler, pour pas justement qu'il y ait une forme de sentiment d'être
de chute,
coupable ou d'être responsable de quelque chose, et de dire voilà. Et puis la lettre qu'elle laisse est très très touchante en disant mais voilà, ton papa était comme ça, ta maman était comme ça, ils se sont rencontrés rapidement, ils ne peuvent pas s'occuper de toi, ou on veut que tu sois encore plus heureux avec une famille équilibrée qui va pouvoir t'accueillir. Enfin voilà, c'est tellement intelligent. Ça se passe pas toujours comme ça.
Non.
Mais c'est le protocole qui est pensé comme ça, quand même.
Absolument. Le protocole, depuis pas très longtemps. Le CNAOP, ça existe depuis 2002, donc c'est pas très vieux, hein. Enfin, ça fait 16 ans quand même.
Ouais.
Donc on a eu le temps de l'éprouver et de le perfectionner. C'est le protocole, mais il y a forcément des gens qui échappent, enfin, à cela. Mmh. Alors, moi, ce que je trouvais intéressant aussi, entre autres, parmi les multiples choses que vous montrez, c'est comment, Élodie, vous étiez d'abord dans un projet d'enfant né à l'étranger. Mmh. Et puis, effectivement, après ça, vous renoncez enfin à cette adoption à l'étranger, alors que les femmes célibataires peuvent adopter des enfants.
Non, elles renoncent pas. Elles renoncent pas, mais disons qu'elles sont
passées à autre chose.
Elle ouvre le champ des possibles.
Vous ouvrez à autre chose. Oui, vous avez raison.
Elle abandonne rien. En fait, elle s'ouvre.
On garde tout, y compris en disant qu'elle est prête à accueillir un enfant avec
un besoin spécifique.
Voilà, c'est ça.
Qu'en est-il des enfants handicapés dans le champ des possibles?
Dans le champ du possible, donc les enfants dits handicapés, hein, ça dépend de quel handicap on parle, il y en a un certain nombre qui sont adoptables, mais ils ne sont pas forcément adoptés. Et ce sont les enfants qui sont porteurs de maladies génétiques ou de malformations, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des familles, enfin des candidats à l'adoption pour ces enfants-là. Ça existe.
Hein. Des gens qui sont ouverts.
Des gens qui sont ouverts, qui se sont prêts à adopter des enfants porteurs de pathologies spécifiques. Je voulais juste dire un mot à propos de ces enfants pupilles, parce que souvent, moi je participe à l'agrément en région parisienne, les candidats se dirigent vers l'étranger, alors pourquoi pas, hein, je trouve ça aussi très très bien que ces enfants-là soient adoptés, pour des enfants grands ou malade, et je me dis que il y a quand même quelques pupilles qui sont effectivement des enfants aussi porteurs de besoins particuliers que on pourrait les adopter ici.
Et la durée du parcours, on parlait tout à l'heure de parcours du combattant dans le film, et le personnage d'Élodie Bouchèze attend 8 ans avant d'avoir une réponse.
C'est 5 ans en moyenne. C'est 5 ans en moyenne, oui.
L'adoption, comment répondre aux questions des enfants, parce que c'est très important aussi de leur parler, on le comprend, et c'est l'une des forces du film. Signé Fanny Cohen-Herlem. Merci beaucoup d'être venue, Fanny.
Merci à
ce
vous.
Micro. Merci. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour.
Tanguy, rien ne s'apaise entre les gilets jaunes et l'exécutif.
Non, Macron joue l'usure, il se dit que les mecs vont se décourager, il a peut-être raison. Personne ne rêve de vivre sur un rond-point, à part les passionnés de géométrie. Hein, hier, Édouard Philippe était interviewé, il a donné moins d'espoir aux gens qu'Isabelle Huppert si elle annonçait la fin du monde en pleurant à la télé.
À tout à l'heure après les infos de midi. La bande originale avec Léa Kadobudadi, Marina Rodemann, Daniel Morin, Albert Amour, Tanguy Pastureau et nos invités Jeannery et Elodie Boucher. Folie avec ce film qui s'appelle Pupille, ce jeu de mots voulu évidemment entre l'œil, le regard que l'on peut avoir sur les autres et l'adoption
et le statut
et le fameux statut qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, c'est vrai, l'importance des regards. Donc Pupille, ça m'allait bien.
On a parlé beaucoup du fond de tout ce qui se passe dans le film. J'aimerais qu'on parle aussi de la forme, de votre talent de réalisatrice.
Moi aussi, j'aimerais beaucoup qu'on en parle. Ce talent.
La manière dont vous les filmez, j'allais dire la manière dont vous les aimez avant de les filmer, parce que votre caméra, elle est douce, bienveillante avec eux, avec tous, femmes comme hommes.
Ouais, c'est vrai que c'est en comprenant aussi, on disait tout à l'heure que j'avais essayé comme ça d'être actrice et d'avoir appris ce truc, et il s'est trouvé que après je me suis mise à écrire des choses et que j'avais jamais envie de les jouer. C'est-à-dire que tous les dialogues que j'écrivais, toutes les séquences que j'écrivais, j'y mettais du mien. J'avais jamais envie de les jouer, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. Et par contre, tiens, c'est bizarre ce signal. Et en fait, le plaisir que j'ai à travailler avec les acteurs, les voir jouer, c'est un plaisir infini, et les filmer aussi. C'est la vérité que je les filme avec beaucoup d'amour et beaucoup de désir.
Alors évidemment, il y a l'amour d'une fille pour sa maman, et Miu Miu est formidable, c'est une brillante comédienne, elle est douce comme tout, elle est belle comme tout, et on sent que vous la filmez avec cet amour, mais l'amour aussi vous l'avez pour les mains, pour les nuques des comédiennes, le début, la fin de l'oreille et le début du cou, vous aimez bien ça.
C'est ça, c'est-à-dire que je découvre aussi les dimensions complètement obsessionnelles de ma personne, et il se trouve que j'aime bien les pieds, j'adore les mains et j'adore les nuques. C'est vrai que les nuques,
il y a plus de nuques que de pieds dans votre film.
C'est vrai. Mais c'est parce que j'ai aussi fait des mises en scène où je mettais des chaussures partout. Mais qu'as-tu dans ta tête, meuf? Et en fait, c'est vrai que ces nuques, pour moi, c'est un endroit qui est très très fort. C'est un endroit plein. C'est très ambivalent comme endroit. Pour moi, c'est à la fois la fragilité, la nuque, le bas du cou, et en même temps, c'est la volonté, donc c'est la force. Il y a quelque chose qui me... D'abord, je trouve ça beau et sensuel, et il y a quelque chose... Il y a une vibration à cet endroit. Je sais pas, moi, j'aime regarder ça. Donc...
Et on aime le voir quand vous le filmez, en tout cas, je vous assure. Et il y a le personnage de Sandrine Kiberlin qui, elle, est une assistante...
éducatrice spécialisée.
Éducatrice. Alors, elle n'est pas assistante sociale.
Non, elle est rattachée à l'aide sociale à l'enfance aussi, mais voilà. Elle est éducatrice spécialisée.
D'accord. Où elle est dans une remise en question totale de sa vie personnelle, de sa vie de femme, tout en faisant tout pour construire la vie des autres.
Oui, c'est vrai, c'est la particularité de ces métiers où leur outil de travail, c'est eux-mêmes, c'est leur sensibilité, c'est leur intériorité, c'est leur capacité à évaluer les autres, à être à la fois empathique, en même temps vigilant. Or, c'est pas cloisonné, mais de toute façon, aucun de nous ne l'est. Moi, c'est une dimension de la vie et des autres et de moi-même que j'ai toujours trouvé très intéressante et très forte. C'est-à-dire qu'on gère tout en même temps avec la même enveloppe. On travaille et en même temps, on a des peines de cœur et on a mal aux dents et on a eu une phrase qui nous a vraiment turlupiné ce matin au petit déjeuner avec notre enfant. Et on est rempli de ça. Et on ne peut pas se départir de ça. Voilà. Et ces gens-là, ils travaillent avec leur sensibilité. Et leur sensibilité, elle est éprouvée par leur travail, mais par la vie aussi. Et c'est vrai que ces gens sont des gens. Ouais, ce ne sont pas des fonctions, ce sont des gens.
Exactement, avec une vie, avec leur vie qui est propre. L'intelligence avec laquelle Jeanne Herry parle de ce film, vous la retrouverez dans le film. Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch, Élodie Bouchèze, Olivia Cotte, Clotilde Mollet, Miu Miu, entre autres, dans ce film qui s'appelle Pupille, au cinéma le 5 décembre prochain. Voici Tanguy Passion. Le dialogue vous paraît, mon cher Tanguy, impossible entre le pouvoir et les gilets jaunes.
Ah bah oui, mais c'est un constat, ne pas le voir, c'est comme ne pas réaliser dès 85 que le groupe Modern Talking aurait une durée de vie limitée, ne serait-ce qu'à cause de leur coiffure. Parce que qu'est-ce qu'on a ? D'un côté des gilets jaunes qui crient Macron démission, or l'autre ne va pas partir. Il lui reste 3 ans et demi sur son bail, le Klebs a son arbre préféré pour faire pipi dans le jardin, Brigitte est bien, le matin elle se lève et se dit « Ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Mourir d'ennui ou crever de lassitude ?» Parce qu'elle végète dans la case du chef, tandis que l'autre brasse de l'air H24 dehors. Et de l'autre côté, on a Macron, qui a l'air de s'en foutre. Il est comme notre conjoint quand il est sur sa tablette. Hein, vous avez beau parler, il écoute sans entendre. Vous criez « Je vais te bifler, Monique », on vous répond « Je sais pas, regarde dans le frigo hein. ». Mais Macron s'est découvert une fibre écolo en quoi 14 jours. Il y a encore un mois, il s'en tapait de la planète, comme Ségolène Royal de son premier ours polaire. Hulot était parti trempé tellement il pleurait. Sa femme de ménage l'avait essoré au-dessus d'un seau par réflexe. Et Macron avait nommé Rugy, l'écolo mou qui, quand il laisse vivre une araignée au lieu de l'écraser sous sa pompe, dit qu'il s'agit de sa contribution à la cause environnementale. Mais là, ça y est, Macron est à bloc, il va fermer les centrales à charbon, réduire le nucléaire, il va finir par se casser dans une ZAD et fumer des spliffs en comptant les poux qu'il a dans le pubis. Et on a l'impression qu'il est plus écolo que José Bové qui s'est pas lavé depuis 95. Et tant mieux, il était temps, la planète, quoi. Mais le souci, c'est que c'est tendu, parce qu'on a des gens qui galèrent. Vous habitez à la Cambrousse, il n'y a plus un service public pour poster une lettre, c'est Pékin Express. Il y a un TER par jour. Quand il passe, parce que le réseau est moins entretenu que Sébastien Chabal. Et si vous décrochez un job pourri par le biais d'Adéco, vous allumez un cierge pour remercier le petit Jésus, plus sa mère Marie, qui elle aussi galérait. Elle était mère célibataire. Si elle avait roulé sur l'or, elle aurait pas envoyé le petit dormir à côté d'un âne et d'un bœuf. Dans l'amour et dans le pré, même les candidats les plus rustiques ont une chambre à eux. Bref, on vit dans un pays où pas mal de gens souffrent, et on n'est plus au temps de Germinal où les mecs le soir sortaient du trou, tel Michel Polnareff s'il était tombé dans son CV entre 89 et aujourd'hui. Et avait comme seule distraction ensuite de boire un godet. Il y a 20 ans, la mère Aubry nous a refourgué les 35 heures en disant qu'on passait à la société des loisirs. Or, un cinéma, c'est cher. Un spectacle, c'est cher. Sauf le mien par rapport à ce que c'est. Mais quand vous avez 2000 euros pour 4, votre truc, ça va être de vous rapprocher le plus possible de la télé au moment des racines et des ailes spéciales Toscane pour avoir l'impression d'être en Toscane. En plus, si vous restez assez longtemps, Carole Gessler revient et c'est comme si elle vous faisait un bisou esquimo. Hein, elle est belle, Carole Gessler. Bon, il faut juste s'éloigner de l'écran avant la pub pour les produits contre les mycoses des ongles, sinon vous êtes dans le pied. Or, il n'y a qu'un Georges Tron.
Bon, hier, le Premier ministre Édouard Philippe était face à Jean-Jacques Bourdin.
Oui, donc on s'était dit, il est du côté du peuple, Édouard, il vient du Havre, niveau Brosouf, c'est pas Saint-Trope. Il sait que les gens se sentent déclassés, et on pensait qu'il allait lécher du lest. Même un symbole, dire à Bourdin, écoute Gigi, je vais supprimer la taxe additionnelle à la taxe compensatoire qu'on a mis sur la seconde taxe, venue s'ajouter à la taxe originelle sur l'essence. Parce que c'est ça qui se passe. passe. Les mecs font des lasagnes avec des taxes. Mais si on payait pour que dehors, il y ait zéro SDF et des maternités qu'on ferme pas pour éviter que ta sœur, elle accouche dans la voiture parce que la première est à 80 bornes. Résultat, la moitié des bébés s'appellent Mégane pour rappeler le moment de la naissance. Et un pôle emploi qui soit un soutien et pas une humiliation. On paierait avec plus la banane que là, on a l'impression que le pays est laissé en jachère. Mais Édouard Philippe, c'est une pince. Jamais vu un type aussi proche de ses sous. À la Saint-Valentin, je pense qu'il réemballe le collier offert il y a 3 ans, qu'il écrit le manège à bijoux Leclerc au bic et offre ça à sa femme. Hier, il a déclaré qu'au 1er janvier, la taxe sur le carburant augmenterait. Bon, on se dit, c'est un choix. C'est la transition écologique. Il vaut mieux ça que Trump, qui au premier flocon qui tombe dans son jardin, se met à hurler. Vous voyez alors, c'était des conneries le réchauffement. Hashtag fake news. Hein, il est tellement sur Twitter que dans la vraie vie, il prononce les hashtags. Donc là, Bourdin lui demande, et le SMIC? Philippe répond, il n'augmentera pas. Lui, c'est zéro dialogue. Margaret Thatcher, il y a 30 ans à côté, c'était Marc-Olivier Fogiel en train de vous écouter en hochant doucement la tête alors que vous êtes en train de parler de votre mère. Et là, Bourdin se dit, c'est pas possible, il va céder sur un truc. Il est sur le point d'attraper Philippe et le secouer pour voir s'il y a du blé qui tombe. Mais l'hôte est trop grand, il n'a pas d'échelle. Il lui demande, et le salaire des ministres va-t-il baisser? Parce que la moitié des gonzes se sont auto-augmentés. Ils se mettent devant un miroir et disent, salut Benjamin, veux-tu plus sur ta fiche de paye? Attends, je réfléchis. Bon, d'accord, Benjamin. Et là, Philippe dit non. Pas de baisse de taxes, pas de hausse de SMIC. Les ministres surpayés, lui, ne donnent aucun espoir. Édouard Philippe, c'est le groupe The Cure qu'on écouterait en plein spleen. Il est dark. Là, demain, il va recevoir les gilets jaunes. Je pense qu'il va fournir la corde. Et qu'il aura invité Mylène Farmer en pleine crise d'anémie, en train de crever derrière. Du coup, ce qui devait être un changement civilisationnel, la fin des énergies fossiles, se transforme en clash social juste parce que les types tentent de faire en 3 semaines ce qu'ils n'ont pas fait avant. Zéro dialogue, zéro considération, zéro espérance. On va droit dans le mur, mais en électrique. Donc ça va, hein? Encore 3 ans et demi à passer sans se parler. Ça va être long, cette relation. Moi, j'ai demandé les papiers du divorce. J'en peux plus, hein? On a élu un beau parleur, on se retrouve avec le mime Marceau.
Merci, Tony. La bande originale, lundi, sur France Inter. Pupille, le nouveau film, le deuxième film de Jeanne Herry avec Élodie Bouchez, entre autres. Élodie, vous l'avez vécu de quelle manière ce film, quand vous l'avez vu en tant que spectatrice, pas en tant que comédienne en le jouant?
Quand je l'ai vu, j'ai su que la promesse déjà qui était au scénario était tenue et encore plus. Plus incroyable que l'était déjà le scénario. Et c'est en le voyant une seconde fois que j'ai compris aussi mon engagement d'actrice sur ce film. Et que j'ai compris aussi comment je choisis les films et pourquoi je les choisis.
Vous parlez d'engagement comme on parlerait d'un engagement militant?
Nous, on est là, les acteurs, pour donner notre corps, notre voix, nos regards, nos vibrations.
Donner vie aussi, d'une certaine manière. Ouais.
À un film, à une histoire, à un personnage. Et lorsque le cadre et les enjeux sont aussi forts que ceux de ce film, on doit être à la hauteur. Et moi, j'avais vraiment à cœur de porter ce personnage, de le mettre en lumière et de la gorger de lumière aussi dans ce parcours.
Voilà, je parlais de militantisme parce qu'il y a, on a envie de vous aider dans ce parcours aussi. On a envie d'être avec ces mamans ou ces couples qui cherchent à adopter un enfant, qui sont jugés apparemment en quelques minutes ou quelques semaines éparpillées. Non, mais c'est l'impression que l'on a.
Oui, c'est ça.
Et même un sentiment d'injustice. On voit bien des couples où on leur dit non, ça pas possible, ça va pas être vous. On voit que le mec est totalement en train de péter un câble, que l'épouse est désespérée, est en larmes d'entendre le refus, le non-agrément donné à ce couple. Donc on imagine que ça ne doit pas être simple, parce qu'il y a une responsabilité très lourde aussi de confier un enfant à une famille. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas gâcher la vie de cet enfant.
Et avant ça, quand tu peux faire des enfants, personne ne vient voir chez toi si ouais. tu es capable prêt à être un bon parent.
Oui, mais donc, c'est pas le même projet.
Mais je sais bien.
C'est bien ce que montre le film. C'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent aujourd'hui vers l'adoption. Chose que j'aurais faite moi-même, j'en suis certaine, si j'avais pas eu la chance d'arriver à faire des enfants en faisant l'amour avec quelqu'un dans une chambre. Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup une évidence et une simplicité. Et d'autre part, pour la même finalité, le même désir, pour assouvir le même désir, tout d'un coup, des années de complexité. Moi, je me serais tournée vers l'adoption aussi, pour combler ce manque. Le problème, c'est que on a affaire à des gens, et il faut le comprendre, qui travaillent pour l'aide sociale à l'enfance aussi, du côté de l'adoption. Ils travaillent pas pour l'aide sociale des parents en souffrance, ils travaillent pour les enfants. Et on l'a vu, on a entendu les chiffres tout à l'heure, il y a très peu d'enfants adoptés, énormément de gens qui veulent adopter. Donc, au bout d'un moment, c'est normal, il y a une sélection, et adopter un enfant, ça n'est pas pareil que d'élever un enfant biologique. C'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas le même projet. Je pense que c'est ça qu'on sent dans le parcours d'Élodie Bouchez, qui au départ se tourne vers l'adoption presque par dépit, pour combler un manque qu'elle n'a pas réussi à assouvir par la nature, on va dire, tranquille, bêtement. Et puis que petit à petit, son cerveau change, elle s'oriente différemment parce qu'elle comprend, elle, pour le coup, que ce n'est pas le même projet et qu'il faut qu'elle se prépare à ce nouveau projet.
Ça sort le 5 décembre prochain, mercredi, Pupille au cinéma. On voit bien Daniel Morin que avec le trajet d'Alice dans Pupille, bah le chemin d'adoption, ouais. C'est pas vraiment un long fleuve tranquille. Il faut se battre, il faut se vendre, se présenter, ne jamais baisser les bras malgré le découragement, malgré la dureté de la vie, tout ça, avec pour seul objectif donner l'amour que l'on a en soi, des enfants que l'on n'a pas eu et qui n'ont pas eu d'amour.
Oh, nom de Dieu, j'y vois plus rien, je perds la vue, je chie. Je chiale même plus des larmes, non, je chiale du pu. Oui, du pu de rage, du pu épais, celui qui colle, celui qui sent le maroilles et la misère émotionnelle. Stop, monsieur Guy, stop! Stop, vous avez gagné! Leila, file-moi ta ceinture d'explosif au popper, ce que je me fasse sauter le caisson, exploser la quiche, j'en peux plus! Et le combat, ni ni ni, et le courage, ni ni ni, et l'amour, ni ni ni, la dureté de la vie, nanananana, et oh, qu'est-ce qu'il y connaît à tout seul, polygame d'Alexandrie? Capable de donner le nombre précis d'enfants qu'il a sur Terre. Alors oui, certes, je sais, quand vous vous en donnez la peine, vous êtes absorbant comme une couche confiance, vous êtes réconfortant comme un tube de mitosil, mais vous êtes con comme un biberon sans tétine. La solution n'est pas dans l'adoption des gosses, enfin. Mais nom de Dieu, de bordel de gilets jaunes, vous le savez, il y a trop de monde sur Terre, monsieur Guy. Si vous devez adopter, adoptez un vieux. Un vieux ou une espèce en voie de disparition, une hirondelle, un socialiste, je sais pas. Et le choix du vieux, c'est malin. Du vieux, c'est encore plus malin. Une maternité, c'est hyper surveillé, très difficile de voler un gosse de nos jours. Par contre, baladez-vous dans un EHPAD, vous verrez, il y a personne qui surveille. Il y a pas un vigile. Vous rentrez dans une chambre, vous prenez un vieux sous le bras, et non, n'ayez pas peur, c'est pas lourd. Les vieux, c'est à les os poreux, donc léger. Donc, je disais, vous prenez votre vieux sous le bras, et vous vous cassez, et personne ne vous courra après, hurlant, revenez, monsieur, remposez le vieux tout de suite, il est pas à vous. Non! Vous arrivez sur le parking, vous le mettez dans le coffre, ou plié dans la boîte à gants, s'il est de petite corpulence, et hop, roulez jeunesse. Non, désolé, mais une fois de plus, mon pauvre monsieur Guy, vous avez dit...
N'importe quoi.
La bande originale avec Nagui.
Toute la semaine sur France Inter, sur nos ondes, nous posons des questions à nos invités sur la planète. Et
en vue de la COP24.
La planète, exactement, en vue de la COP24. Élodie Bouchez, que fait Élodie cette fois-ci au quotidien pour la planète?
Les petites choses.
Ouais.
Les petites choses, mais
les petits ruisseaux qui font les grands fleuves.
Qui réconfortent, oui.
Comme
essayer de ne pas surconsommer, de réutiliser les choses. D'acheter ce qu'il faut, de ne pas gâcher.
Est-ce que vous transmettez aussi comme valeur à vos enfants? Ça passe par quoi? Parce que...
Oui, de toute façon, je pense vraiment que nos enfants, ils sont très très au fait de notre planète et c'est eux qui vont peut-être réussir à la sauver.
Espérons, ouais. Mmh. Espérons. Jeannerie, vous, que faites-vous pour la planète au quotidien?
Je roule en 4x4 plein de fois, de manière aléatoire et complètement inutile tout le temps. Des petites choses aussi. Je roule en vélo, de manière aléatoire et absurde aussi. Non, oui, je roule en vélo. Moi aussi, je suis pas une forcenée de la consommation et j'essaye de penser un peu plus tout ça, d'avoir un petit peu plus conscience, mais il y a du boulot. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a énormément de boulot. Justement, sur Pupi, vous avez dit aussi qu'il y avait, il fallait que ce soit un film engagé.
Non.
Qui défend une cause qui change notre regard sur l'adoption.
Non, c'était pas un objectif. Il se trouve que moi, mon regard a changé et que en transmettant, voilà, en écrivant une histoire dans ce cadre-là, que j'ai essayé de comprendre au mieux partout, dans ces moindres recoins. Peut-être nécessairement que je fais un travail de transmission, mais c'était pas complètement mon objectif. Moi, je voulais juste écrire une histoire forte et des personnages forts, en fait.
Quelle sera la prochaine histoire, vous le savez déjà ?
Pas du tout. Je fais une série. Je suis en tournage très bientôt pour une série pour Canal+, où je vais retrouver Camille Cotin, entre autres.
Est-ce que c'est l'adaptation de la série anglaise ?
Oui.
D'accord.
D'une série anglaise qui est formidable, qui s'appelle Fleabag.
Fleabag, ouais. C'est un carton. Hein.
Qui est une très très belle série, hyper percutante, hyper brillante et très drôle. Et donc, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un truc infaisable que je vais rater.
Là, on est obligé de
rester. Adapter une super série pour faire quelque chose de moins bien.
Non, ça ne sera pas le cas. Mais est-ce qu'on est obligé de rentrer dans les chaussures, comme disent les Anglais, de la réalisation anglaise?
Ouais. Enfin, moi, je m'impose un peu, en tout cas, au départ.
Il y a une Bible, il y a des codes de réa à respecter.
Disons, personne ne m'oblige et rien ne m'oblige, mais disons qu'avant de me l'approprier, il a fallu que je puisse écrire une thèse dessus. Parce que comme c'est très, 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 très bien, et que quelque chose qui est réussi, c'est une addition de bons choix. J'ai essayé d'étudier tous ces choix en me disant, mais pourquoi c'est bien? Ah oui, c'est bien parce que ça. Et donc, du coup, de fait, c'est vrai que comme je l'admire beaucoup, cette série, j'y suis très fidèle, mais que petit à petit, je me l'approprie, je m'en éloigne. C'est normal pour trouver les bonnes correspondances avec la France. Et donc, on verra bien.
Quant à vous, Élodie Bouchet, vous venez de tourner Tant de chiens, c'est ça?
Oui.
Réalisé par Édouard Duluc avec Philippe Robot et Laure Calamy. Ça sera sur Arte. Vous savez quand ça passera ou pas ?
Non, 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 c'est jamais à l'avance.
Bon. Et vous avez tourné dans le prochain film de Laetitia Masson ?
Oui, je retrouve Laetitia pour un film au cinéma cette fois-ci.
Est-ce que c'est toi ? C'est le titre, ne me regardez pas comme ça, c'est pas une question que
j'ai vu qu'il y avait un petit moment flottement là.
Tu la tutoies, chelou cette question.
Non.
Je sais pas pourquoi elle s'obstine à vouloir travailler avec d'autres metteurs en scène, moi je trouve ça absurde, mais enfin bon, tant pis.
C'est en attendant que tu l'appelles. Ça parlera de quoi ce film de Laetitia Masson ?
C'est aussi un film choral avec plein de destins qui se croisent et s'entrechoquent.
En tout cas, le film choral est réussi hein, dans l'équilibre.
Merci.
Même Gilles Lelouch est bon. Sandrine Guilherlin, Élodie... Oh, il fallait bien qu'on le vanne un peu. Élodie Bouchèze, Olivia Cotte, Clotilde Mollet et Miu Miu dans ce film.
Et Bruno Podalides, par exemple, qui fait encore un beau
petit
couple.
Avec Sandrine.
Avec Sandrine, oui. Ouais, qu'on retrouve ensemble. Petite apparition.
Absolument.
Ouais.
Un petit clin d'œil.
Et Stévenin aussi, Jean-François Stévenin.
Jean-François Stévenin qui joue
Stéphie Selma, tout ça.
Et Théo.
Théo qui est formidable. Petite précision, c'est vrai que vous n'avez pas voulu que le bébé reste au moment où les phrases les plus choquantes devaient être dites, justement en respectant ce que l'on dit à un enfant.
Ben oui, c'est sûr que comme le film pense, et nous collectivement, on pensait que les bébés étaient réceptifs à la parole, et qu'il y avait 2-3 moments où voilà, je savais que les acteurs allaient y aller en fait, qu'ils allaient mettre la charge émotionnelle qu'il fallait. Je me suis dit, bon, est-ce que je les traumatise ou pas? Ouais, non, allez, non, finalement,
c'est
non.
C'est le seul moment où il y a des faux bébés qui viennent, mais le reste
du temps...
Mais
on les voit pas, c'est vrai,
c'est pour les contre-champs sur
ouais, c'est les contre-champs sur les acteurs.
Exact. C'est formidable, bravo. Ouais,
merci beaucoup.
Très beau film, Pupi. Des excuses à présenter, Daniel.
Ah, bien sûr. Désolé. Déjà pour les Gilets jaunes qui, après avoir repris du poil de la bête suite aux multiples soutiens des célébrités du showbiz français, ont appris grâce à Tanguy qu'ils avaient bientôt rendez-vous avec Édouard Philippe. Voilà, la fin d'un rêve. Quel salaud ce posturant d'avoir retourné le couteau dans la plaie. Désolé pour Élodie qui a découvert ce matin qu'elle était arrivée plus tardivement que les autres. Eh ouais, les autres comédiens dans l'esprit de Jeanne Herry. Il paraît même qu'au début, c'était Gilles Lelouch qui devait incarner aussi la maman. Enfin, Lelouch depuis le grand bain, il est partout. Hein. Désolé enfin pour Leïla qui m'a confié à la pause vouloir monter un spectacle où elle serait toute seule et toute nue au Club Med pour ses prochaines vacances. Alors par contre, j'ai eu Henri Giscard d'Estaing au téléphone à la pause. Alors, il dit pas non tout de suite, mais il aimerait une petite répétition chez lui ce soir à 23h. Je t'envoie un taxi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merde pour Pupille. Ouais. Mercredi prochain, le 5 décembre, au cinéma. Demain, Guillaume Wix et Guillaume Niclou seront nos invités. Tout de suite, des carnets de campagne. Il est l'heure.
Oui, salut les amis. Salut. Merci de faire passer le message toute la semaine sur la planète. Comment lutter contre les changements climatiques? Il n'y a pas que le dioxyde de carbone. Il y a aussi le méthane des vaches. Comment rendre les vaches moins polluantes? Ça, c'est une question.
Bah déjà, t'en manges moins.
Les bouffons pas, justement. Oui, bien sûr. Ah, les bêtes.
Bravo. Allez, salut.
T'en bouffes plus.
Ciao.